Arthur Bernhead, Le crime d'un aviateur. Chapitre 1. Le bal des As. Ce soir-là, le grand constructeur d'avions, Florent Avrillier, donnait un grand bal dans les somptueux salons de son hôtel de la rue du Ranelagh. Cette fête, où se pressaient non seulement toutes les gloires et notabilités de l'aviation française, mais encore toutes les célébrités mondaines du haut snobisme parisien, était offerte en l'honneur du raid magnifique Paris-Buenos Aires que venait d'exécuter aller-retour le jeune pilote, le lieutenant Jacques Moret, assisté de l'enseigne de vaisseau Jean le Neveu, qui remplissait à bord de l'Oiseau de France les fonctions de navigateur aérien et de son fidèle mécanicien Bridonneau, dit Pierre Nutête. Le monde entier avait acclamé ce splendide exploit accompli avec cette simplicité, ce calme, ce mépris de toute publicité préventive, cette absence totale de bluff qui caractérise les véritables héros. Il ne s'agissait pas, cette fois, d'une de ces épreuves uniquement sportives dont le succès est dû, très souvent, beaucoup plus à une série de circonstances heureuses qu'à la virtuosité de l'instrumentiste et à la qualité de l'instrument. Manifestation, soit dit entre parenthèses, que l'on devrait bien interdire, car, loin de servir la cause de l'aviation, elle la retarde en allongeant chaque jour la liste funèbre des victimes. L'aviation ne doit pas être un sport. Moret et le neveu, par leur double traversée accomplie, sans accident et même sans incident, en un rythme aussi puissant que régulier, avaient obtenu un résultat pratique tangible qui, pour être moins intéressant que certaines acrobaties tapageuses, d'ailleurs non renouvelées, n'en était pas moins infiniment gracieux pour ceux qui l'avaient atteint et pour le pays qui ne pouvait manquer d'en récolter d'importants avantages. C'était en effet la route commerciale de l'ère ouverte, établie, jalonnée entre la France et l'Amérique du Sud. Notre aviation nationale avait le droit d'en tirer une légitime fierté, ainsi que le constructeur de l'appareil, qui, malgré le faible appui qu'il avait rencontré dans le monde officiel et toute la campagne de dénigrement systématique qu'avaient menée contre lui certains de ses concurrents, ne s'était pas laissé décourager un seul instant et avait inlassablement poursuivi son œuvre. Aujourd'hui, il était récompensé de ses efforts, de sa ténacité et de la confiance que lui avaient inspiré ces deux jeunes gens qui se complétaient si bien l'un et l'autre. Sa marque Excelsior était la plus cotée de France. Ses actions, un instant quelque peu défaillantes, avaient fait un saut énorme et paraissaient devoir monter encore pour se maintenir à une cote qui quintuplait environ le taux de souscription. Et tandis qu'il regardait autour de lui tous ces gens qui, s'il avait été vaincu, ne lui eussent pas ménagé leur sarcasme et leur médisance, et qui, aujourd'hui qu'il était vainqueur, n'avaient pour lui que courbettes et sourires, son mâle et énergique visage de capitaine d'industrie resplendissait d'une joie sans mélange qui ne m'était pas inspiré uniquement par le formidable développement qu'allaient prendre ses affaires, mais par le légitime orgueil d'une victoire qui était mieux que la sienne, c'est-à-dire celle de son pays. Tout en parlant avec plusieurs de ses amis qui l'entouraient, Florent Avrillier ne pouvait s'empêcher de diriger fréquemment son regard sur sa femme et sur sa fille, qui toutes deux, l'une avec une souriante expérience et l'autre avec une grâce un peu timide, se multipliaient auprès de leurs invités. Alors une furtive et douce émotion se lut dans ses yeux, révélant tout l'amour que lui inspirait sa femme, toute la tendresse qu'il portait à sa fille. Jamais peut-être Florent Avrillier n'avait aussi bien compris ce qu'était le vrai bonheur, et lui, si fort, si pondéré, si maître de lui-même, en éprouva comme un rapide vertige. Madame Avrillier était un de ces êtres qui semblent avoir été mise au monde pour incarner à la fois la beauté et la bonté. Dans tout son épanouissement, Elle n'avait pas 35 ans, 18 à peine de plus que sa fille. Celle que jalousait le plus, et que Dieu sait si elles étaient nombreuses, ne pouvait s'empêcher de l'appeler la belle Antoinette. Jamais épithète n'avait été mieux méritée. Elle eût été aisément une ambassadrice, une présidente de la République et même une reine. Dans ses hautes fonctions, loin d'y être déplacée, elle n'eût fait qu'engrandir l'éclat. Toute jeune, elle avait épousé Florent Vrier lorsque celui-ci n'était qu'un simple petit ingénieur attaché à une usine de Saint-Denis. Elle était la troisième fille d'un officier d'infanterie d'une valeur mesurée, qui n'avait que sa solde pour vivre, élever ses les siens, et qui n'avait jamais dépassé le grade de commandant, obtenu d'ailleurs non sans peine à la veille de sa retraite. Il est superflu d'ajouter qu'elle n'avait pas eu de dette. Le jeune ménage avait connu des heures difficiles, assez difficiles. Florent était fort peu rémunéré et gagnait certainement beaucoup moins qu'un contremaître, un metteur au point ou un ouvrier spécialisé. Déjà, à cette époque, les intellectuels n'étaient guère protégés. La situation se compliqua encore à la suite de la naissance, au bout de 10 mois d'union, de la petite Martine. Animée d'une énergie qui grandissait encore son ardent amour pour sa femme et son enfant, qu'il avait adoré dès qu'il avait entendu son premier cri vers la vie, il se jura que ni l'une ni l'autre ne végéterait dans ces situations obscures qui usent lentement les cœurs et dessèchent promptement les consciences. Il tint son serment d'autant plus facilement qu'il n'était pas seulement un savant, mais qu'à de rares et précieuses qualités techniques, il joignait un réel sens des affaires basé sur une incomparable loyauté. C'est une grave erreur de croire que, suivant un vieux et stupide dicton, il faut être une fripouille pour réussir. Non, être honnête, c'est encore le seul, le vrai moyen, sauf de rares exceptions, de préparer solidement son avenir, d'établir nettement sa destinée. C'est peut-être plus long, mais c'est beaucoup plus sûr. Construire sur l'équivoque, c'est bâtir sur le sable. Chaque jour, ne voyons-nous pas des fortunes conquises rapidement, brillamment, bruyamment, s'effondrer au premier choc d'une bataille? Pourquoi? Parce qu'elles ont une origine douteuse, qu'elles portent en elles la tare, la germe de pourriture qui les conduira fatalement à une décomposition plus ou moins rapprochée. Féru de ses principes, Florent Davrier sut inspirer confiance à un groupe de financiers qui n'hésitèrent pas un seul instant à le mettre à la tête d'une société au capital de 10 millions, ayant pour but la fabrication totale, moteur et appareil, d'un avion dont Havrier avait établi lui-même tous les plans. 2 ans après, la firme Excelsior s'affirmait comme l'une des plus sérieuses de France. Pendant la guerre, ces usines travaillèrent à grand rendement pour les armées alliées et leur fournirent d'excellents avions de combat et de bombardement qui nous permirent de lutter avec avantage contre les fameux Fokkers ennemis. Mais Florent n'était pas homme à s'endormir sur les lauriers d'une victoire à laquelle il avait contribué. Il obtint facilement de son conseil d'administration que les bénéfices réalisés pendant la guerre fussent entièrement employés au développement de la maison qu'il dirigeait si brillamment, et il continua son labeur avec une intelligence et une intensité d'action qui n'avaient pas d'égal. Le succès ne pouvait que répondre à un si superbe effort. Il fut complet. Mais cela n'alla point sans valoir aux triomphateurs de puissants ennemis. Une nuit, une main criminelle mit le feu à son usine de Sartrouville. Grâce à un service de secours remarquablement organisé, l'incendie fut vite éteint et ne causa que quelques dégâts matériels insuffisants pour arrêter le travail et même le retarder. Quelque temps après, une tentative de sabotage contre l'appareil dans lequel l'as célèbre Halmer de Roy devait tenter de battre le record de la durée, échouait lamentablement. Le coupable était arrêté au moment où, après avoir réussi à pénétrer nuitamment dans le hangar où il était enfermé l'avion et s'être glissé dans la nacelle, il s'apprêtait à accomplir son œuvre abominable. C'était un ouvrier, monteur, qui faisait partie de la maison depuis 2 ans et dont on n'avait jamais eu à se plaindre. Après avoir refusé de parler, il finit, habilement cuisiné par Florent Davrier, par lui avouer que, pour accomplir son forfait, qui aurait fatalement abouti, s'il eût réussi, à la mort de 3 hommes, une somme de 20 000 francs lui aurait été versée par un individu qui s'était refusé à lui révéler son nom. Florent Avrier ordonna au misérable, sous peine d'être immédiatement dénoncé à la police, de rester en rapport avec celui qu'il avait soudoyé. 3 jours après, l'industriel, qui aimait à régler ses affaires lui-même, surprenait ce mystérieux gredin en conciliabule avec son ouvrier, et sous la menace de son Browning, il forçait à lui déclarer qu'il était l'agent de la maison. De Kourou, qui n'avait pas hésité à employer un procédé aussi abominable envers un trop heureux concurrent. Très dignement, le directeur d'Excelsior écrivit à l'instigateur de cet infâme complot: Monsieur, je suis au courant de la façon dont vous avez cherché à saboter un de mes appareils. Je pourrais vous déférer à la justice. À quoi bon? Vous diriez et feriez retomber sur vos complices tout le poids de votre crime. Qu'il vous suffise de savoir que je suis sur mes gardes et qu'ainsi que vous devez vous en apercevoir, je ne crains ni les incendiaires ni les assassins. Voilà pourquoi je vous engage à ne pas récidiver, car cette fois, cela pourrait vous coûter fort cher. Florent Avrier. À partir de ce jour, aucun attentat ne se produisit plus dans les usines du grand industriel, qui put travailler en paix, sans la moindre inquiétude, en sécurité parfaite et pour la satisfaction de plus en plus vive de ses actionnaires. La réussite du raid Paris-Buenos Aires, Buenos Aires-Paris, victoire aussi éclatante que profitable, achevait de hisser sur le pavoir la firme Excelsior et son directeur, et celui-ci, dont le regard se posait avec une tendre émotion sur sa fille, qui dansait précisément avec le pilote Jacques Moret, autre héros de la fête, eut un sourire de joie en songeant qu'il pourrait donner 3 millions de dot à sa fille. 3 millions de dot, Martine Avrier n'en avait nullement besoin pour épouser le fiancé de son choix. Elle était en effet de celles qui se marient sans argent, tant elle avait de charme, de jeunesse, de séduction et de grâce. Sans avoir rien de ce que jadis, non sans cruauté, mais avec tant de justesse, on appelait une oie blanche, Martine n'était nullement tombée dans ses exagérations, ses libertés d'allure et de langage, ses attitudes plus ou moins déhanchées que nos jeunes filles modernes doivent adopter si elles veulent être sacrées bien sportes. Elle était demeurée souple, naturelle, et il émanait d'elle un véritable rayonnement de pureté qui en imposait aux plus audacieux et la préservait de ses privautés, de ses familiarités, qui de nos jours semblent réglementer trop souvent les rapports des jeunes gens et des jeunes filles. Aussi était-elle âprement convoitée. Mais nul encore parmi ces nombreux soupirants, dont quelques-uns étaient sincères, n'avait osé se déclarer. Florent Avrier, qui adorait sa fille et redoutait l'instant où il devrait, sinon s'en séparer tout à fait, mais du moins l'avoir s'envolé vers une destinée dont il ne serait plus le maître, avait à plusieurs reprises répété avec fermeté que Martine était encore trop jeune pour se marier. Et l'on savait que lorsque le grand industriel prenait une décision, à moins qu'il ne se convainquît lui-même qu'il avait tort, il était impossible de le faire changer d'avis. Or, dans l'occurrence, personne ne pouvait lui donner tort, y compris sa femme, qui, en plus de la véritable peine qu'elle eût ressentie en voyant sa fille lui échapper aussi promptement, tenait à ce que Martine acquît une plus grande expérience de la vie. D'ailleurs, la principale intéressée ne paraissait pas plus pressée que les siens de s'unir pour les liens du mariage à l'un des fils à papa et à maman qui papillonnait autour d'elle. Elle était si heureuse ainsi, non pas qu'elle fût gâtée, ainsi qu'on aurait pu le croire, mais parce que ses parents l'avaient élevée d'une façon très intelligente et avaient tenu à ce qu'elle eût une instruction aussi complète, aussi soignée que son éducation, et qu'elle ignorât ainsi ce vide du cœur et de l'esprit, et surtout cette satiété de plaisir qui sont les pires conseilleurs de la jeunesse. Bonne musicienne, adorant les lectures intéressantes qui augmentaient l'apport de ses connaissances acquises, Martine Avrier, bien que très sérieuse, n'était jamais triste. Elle ignorait entièrement ses crises de cafard, avant-coureur d'une neurasthénie précoce dont souffraient déjà plusieurs de ses amis, qui étaient doués d'une nature moins privilégiée que la sienne ou avaient reçu de moins salutaires directives. Si Martine désirait conserver pendant quelque temps encore cette indépendance dont elle faisait un si charmant usage, parmi ses admirateurs, il en était un qui déplorait amèrement que la délicieuse enfant n'eût pas déjà fixé son choix sur lui. C'était le capitaine aviateur Alban de Montarmé, un as qui s'était engagé à 18 ans pendant la guerre et promptement devenu l'un de nos pilotes de chasse les plus remarquables, avait continué la paix une fois signée à servir dans une arme où il s'était si noblement illustré. Issu d'une très vieille famille des Ardennes, à la tête d'une importante fortune que lui avaient laissée ses parents, disparu quelques années auparavant, il ne pouvait entrer aucun calcul dans le sentiment que lui avait inspiré la fille de l'industriel. Âgé de 30 ans, ayant vécu comme peut le faire un homme jeune, riche, beau et surtout paré d'une auréole de gloire indiscutable et indiscutée, ayant connu et savouré les succès féminins les plus flatteurs, blasé même sur ce genre de conquête dont certains lui avaient laissé quelques rancœurs et très peu un agréable souvenir, Alban de Montermé avait vite compris que jusqu'alors il n'avait jamais aimé et que c'était seulement à partir de l'instant où il avait senti son cœur battre pour Martine que l'amour véritable, grand amour, celui qui ne tarde pas à se transformer en une passion dominatrice, venait de s'emparer de lui et d'en faire son esclave. Il ne chercha pas à réagir. Pourquoi l'eût-il fait? Martine Avrier ne représentait-elle pas aux yeux de tous, aussi bien que des siens, la fiancée idéale? Il attendit son heure, tout en cachant avec autant de prudence que de pudeur le secret dont la divulgation l'eût à jamais banni de la présence de celle qu'il aimait. Il fit appel à tout son courage, à toute sa patience pour demeurer calme, tout en ne négligeant rien de ce qui pouvait le faire distinguer parmi les autres et qui sait peut-être le faire aimer. Jusqu'alors, il avait vécu cloîtré dans son rêve. Sa meilleure garantie de quiétude résidait non pas seulement dans la volonté que Florent Avrier avait manifestée de ne pas marier sa fille avant qu'elle eût atteint la 20e année, mais encore et surtout dans le fait nettement avéré que Martine n'éprouvait encore aucune inclination pour personne. Son absence totale de coquetterie ne prouvait-elle pas qu'elle ne cherchait nullement à plaire et que par conséquent son cœur n'était menacé d'aucun esclavage? Or, ce soir-là, Alban de Montermé s'était senti pour la première fois attaqué par la morsure de la jalousie. C'était en regardant Martine danser avec le héros de la fête, le lieutenant Jacques Moret, Il avait éprouvé une gêne subite qui ne s'était pas tout de suite expliquée. Mais en continuant à contempler les deux foxtrotters, ce malaise s'était vite transformé en un dépit qui, presque aussitôt, était devenu de la douleur. Il lui avait semblé que l'expression du visage de Mademoiselle Avrier s'était étrangement transformée, que son sourire, toujours si candide, s'entr'ouvrait en un frémissement de discrète mais inquiétante volupté, et que ses yeux, surtout, dans lesquels s'était allumée une flamme qu'il n'y avait jamais vue, s'arrêtaient avec une sorte de complaisance admirative et prolongée sur la figure très mâle mais très rassée de son jeune et charmant partenaire. Alors le soupçon s'installa en maître dans son cerveau enfiévré. Une pensée lancinante le bouleversa. « Pourvu, se dit-il, qu'elle ne se prenne pas de Moret !» Et il songea. Après tout, il n'y aurait rien d'étonnant à cela. Moret n'est-il pas le dieu du jour? Les journaux du monde entier n'ont-ils pas publié son portrait, vanté sa hardiesse, son intelligence? Dès qu'elle l'aperçoit, la flamme la foule l'accable. Toutes les femmes veulent l'embrasser, tous les hommes cherchent à lui serrer la main. Il me disait lui-même tout à l'heure qu'il avait reçu plus de 2 000 déclarations d'amour et qu'il était demandé en mariage par 3 filles de milliardaires américains. N'y a-t-il pas de quoi faire perdre là la tête à une femme encore mieux équilibrée que Martine? Sans compter que c'est un fort beau garçon, qu'il est aimable, enjoué, spirituel, pas crâneur, distingué, élégant, et que, sans descendre de la cuisse de Jupiter, il appartient à une excellente famille. Son père, comme M. Avrier, est un important industriel. Et les établissements Moret, Renard et compagnie sont comptés parmi les premiers de la métallurgie française. Jacques Morel et Martine Avrier, ce serait un couple remarquablement assorti. Et si, comme je le crains, Martine se toquait de lui, qui sait si son père, revenant sur sa décision, ne s'empresserait pas d'accorder son consentement à un mariage si bien fait pour lui donner toutes les garanties. Une voix féminine, au timbre harmonieux et clair, s'élevait tout près de lui. « Comment, capitaine, vous ne dansez pas ?» Alban de Monterney se retourna. Madame Avrier était devant lui. Avec l'amabilité enjouée qui la caractérisait, et la femme de l'industriel poursuivait. « N'est-ce pas, cependant, ce soir, le bal des as ?»« Dites plutôt d'un as !» répliquait l'aviateur. Mais, s'apercevant qu'il avait peut-être prononcé ces mots avec un peu trop d'amertume, il reprit aussitôt. « D'ailleurs, il n'est que trop juste que Moret les honneurs de la soirée. Tous ne doivent-ils pas s'incliner maintenant devant lui ?»« C'est gentil ce que vous dites là, » approuvait la belle Antoinette. « Cela ne m'étonne pas d'ailleurs, car je sais que vous êtes le meilleur et le plus loyal des camarades. » Monterme reprenait. « Serais-je indiscret, madame, en vous demandant qui a bien pu vous faire de moi un éloge aussi exagéré ?»« Mais tous ?»« Oh, je ne croyais pas avoir une si bonne presse. »« Mais elle est certainement meilleure que vous ne le pensiez. » « Vraiment, madame, je suis confus. »« Il n'y a pas de quoi, » souriait madame Avrier. Et elle continua. « Avant que je ne les connaisse, les aviateurs, je vous l'avoue, ne m'étaient pas très sympathiques. On m'avait raconté, en effet, que beaucoup d'entre eux étaient poseurs, encombrants, prétentieux, insupportables, qui ne songeaient qu'à faire la cour aux femmes, à se vanter ensuite de leur conquête et même à s'en attribuer de fausses afin de plastronner devant la galerie. Aussi, je ne vous cacherai pas que c'est un peu à mon corps défendant que je les ai reçus chez moi. Il a fallu, pour que je les admette à mes réceptions et à ma table, que mon mari insista vivement et m'affirma, avec la brutale franchise dont il est coutumier, que sur leurs apparences, parfois un peu trop en dehors et même assez tapageuses, ils étaient, sauf de rares exceptions, de très braves garçons, dont l'éducation ne cédait en rien à la valeur professionnelle. Et ce que vous appelez, d'un nom si bref, mais si caractéristique et qui dit si bien ce qu'il veut dire, le cran. À ma profonde satisfaction, j'ai vite constaté que mon mari, comme toujours, avait raison. Et je me suis rapidement prise d'un sentiment de sincère sympathie et de réelle admiration pour ce corps qui représente à mes yeux l'élite de la jeunesse française. Placé mieux que tout autre pour bien connaître les vraies causes de la crise, d'ailleurs exagérée, que traverse l'aviation française, j'ai ressenti un indicible écœurement en apprenant toutes les gabegies, toutes les tractations malsaines, toutes les combinaisons louches, tous les marchés véreux qui étaient à la base d'un système où les responsabilités deviennent impondérables, parce qu'elles sont invraisemblablement dispersées. Et je me suis mis à prendre en haine toute cette coterie de véritables assassins qui n'ont pas aveuglément, mais délibérément, envoyèrent à la mort nos plus grands pilotes et nos meilleurs navigateurs aériens. Voilà pourquoi, capitaine, j'ai été si heureuse du triomphe de Moret et de Le Neveu, car sans vouloir diminuer en rien leur part de succès, je donnerai pas moins le droit d'affirmer que l'appareil inventé et construit d'après les plans et dans les usines de mon mari a prouvé d'une façon péremptoire que désormais nos aviateurs peuvent ambitionner les raids les plus audacieux, puisqu'ils auront désormais à leur disposition un modèle d'avion grâce auquel ils ne risqueront plus de s'écraser sur le sol ou de disparaître dans la mer. Après qu'une émotion discrète qu'il ne cherchait pas à dissimuler, Alban reprenait. « Vous ne pouvez pas vous imaginer, madame, combien les paroles que vous venez de prononcer m'ont été droit au cœur, et combien aussi elles toucheront mes camarades, lorsque j'aurai l'honneur et la joie de les leur rapporter. » Madame Avrier protestait. « Pourtant, elles n'ont rien d'extraordinaire. Elles sont uniquement l'expression sincère de ma pensée. » « Il serait à souhaiter, madame, appuyait Monthermé, que toutes les femmes de France, au lieu de nous considérer comme des danseurs plus ou moins accomplis, des cabotins plus ou moins brillants, ou des flirteurs plus ou moins avantageux, raisonnent ainsi que vous le faites. » Et gravement, le jeune officier articula. « C'est en prenant les hommes au sérieux qu'on leur fait souvent le mieux comprendre la nécessité de l'être. » Nous ne demandons pas qu'on fasse de nous des idoles éphémères, comme toutes celles vers lesquelles s'élèvent les nuages exagérés d'un encens vite dissipé. Ne tenons même pas à être ce qu'on appelle des hommes du jour, ni à éclipser ce dont les efforts et les manifestations, pour être moins en vue que les nôtres, n'en ont pas moins une utilité souvent plus grande, telle par exemple celle des savants, des inventeurs, qui, dans le silence de leur laboratoire ou de leur cabinet de travail, poursuivent inlassablement leur œuvre appelée à améliorer, à grandir, à purifier l'humanité. Non, nous demandons que l'on nous permette de lutter avec des armes qui ne se retournent pas sans cesse contre nous. Nous voulons des ailes, mais des ailes qui ne se cassent pas, des ailes solides grâce auxquelles nous puissions utilement et sans sacrifice inutile accomplir la tâche si belle à laquelle nous nous sommes attachés. Oh, certes, nous n'avons pas plus la prétention d'être des saints que des demi-dieux. Nous sommes des hommes, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Mais ceux qui, au contraire de vous, madame, nous tiennent en méfiance, ont bien tort. Car s'il y a eu et s'il y a encore parmi nous des crâneurs, des cabotins et même, hélas, quelques brebis galeuses. C'est une erreur doublée d'une injustice que de vouloir juger l'ensemble de l'aviation sur quelques individualités suspectes, sujettes à caution, telles qu'il est si facile d'en découvrir dans d'autres corporations. Voilà pourquoi, madame, moi, qui suis si fier d'appartenir à cette arme, Je vous suis profondément reconnaissant de l'intérêt et de l'estime que vous voulez bien lui porter. Je ne vous dirai jamais assez combien, parmi nous autres aviateurs, le nom de Florence a brillé et vénéré. Il devrait être inscrit en lettres d'or sur notre drapeau et en caractère de feu dans tous nos cœurs. Bravo, mon capitaine! S'écriait une voix juvénile. Oh, vous venez d'exprimer magnifiquement ce que nous pensons tous, et que je traduis plus familièrement par ces mots. Monsieur Florent Avrier est un grand homme. Des applaudissements chaleureux saluèrent ces mots que, tout d'un trait, avec un élan fougueux, venait de proférer Jacques Moret. Montfermeil s'aperçut alors qu'il était entouré par un véritable cercle, dont, avec Madame Avrier, il occupait le centre et qui se composait de tous les as de l'aviation, parmi lesquels s'essaimaient de gracieuses et jolies jeunes filles. « Oh, mon cher camarade, répondait Alban, un peu intimidé, ne me doutez pas que tant d'oreilles m'écoutaient, sans quoi j'eusse certes mis une sourdine à mon diapason. « C'eût été dommage, déclarait Martine, qui se trouvait auprès de Moret, car vous êtes capitaine, un excellent orateur. Monthermé pâlit légèrement. Il avait cru discerner, dans le ton généralement si bienveillant de la jeune fille, une légère pointe d'ironie. Oh, mademoiselle, affirma-t-il, en s'efforçant de sourire, je n'ai aucune prétention à un art qui m'est complètement étranger. Et si je viens de me montrer quelque peu éloquent, c'est uniquement parce que j'ai été sincère. Mais capitaine, ripostait Martine avec un peu de nervosité, croyez que cette sincérité, je ne l'ai pas mise en doute. L'orchestre attaquait un one-step. Moret s'avança vers Madame Avrier et la pria de lui faire l'honneur de cette danse. Elle accepta. Alors, presque avec dépit, Martine, si réservée d'ordinaire, prit le bras de Monthermé et lui dit: Conduisez-moi au buffet, capitaine, car notre héros national a entièrement oublié tout à l'heure de me demander si je ne désirais pas me rafraîchir. Monthermé, subitement rasséréné, s'empressa de conduire la jeune fille au comptoir somptueux buffet installé dans une pièce voisine. Jamais encore il ne s'était senti aussi troublé, aussi peu maître de lui. Pourvu, se dit-il, que je ne me trahisse pas, car je le pressens, ce serait la fin de mon beau rêve. Chapitre 2, où l'on voit le capitaine de Monthermé passer de la plus vive inquiétude à la plus douce espérance. Tandis que l'on dansait dans les deux vastes salons en enfilade que Martine venait de traverser au bras de Monthermé, le jardin d'hiver où il venait de pénétrer, au fond duquel, parmi les arbustes exotiques, les plantes rares et les fleurs précieuses, s'entassaient sur un vaste tréteau drapé de velours rouge frangé d'or, d'innombrables pyramides de pain au foie gras, au jambon, au caviar, et de petits fours de toutes sortes, étaient presque vides. Plusieurs maîtres d'hôtel s'occupaient à réparer les brèches qui avaient été faites dans les assiettes. D'autres regardaient sur des plateaux les coupes à champagne qui avaient déjà servi et les remettaient à des commis qui les emportaient à l'office et les rapportaient toutes miroitantes. Un vieux général, très loquace, et un jeune diplomate fort silencieux, fumait un cigare dans l'embrasure d'une porte-fenêtre à demi entr'ouverte qui donnait sur un jardin. Le diplomate, qui étouffait à grand-peine les bâillements de plus en plus rapprochés qui menaçaient de lui décrocher la mâchoire, avait à plusieurs reprises tenté de se soustraire à l'éloquence de ce guerrier implacable. Mais à chaque tentative d'évasion, celui-ci l'avait attrapé, tantôt par le bras, tantôt par le revers de son habit, le forçant à écouter jusqu'au bout l'intarissable récit, non pas de ses campagnes militaires, mais de ses conquêtes amoureuses. En effet, si le général Duvary, du Bressan, de la Volthe n'avait jamais été très heureux sur les champs de bataille, il avait rapporté auprès du sexe faible une série de succès qu'il prétendait à 64 ans bien sonnés poursuivre sans la moindre défaillance. Le diplomate, qui était un homme bien élevé, s'exclamait d'un ton poli « Oh, c'est tout simplement merveilleux !»« Mais non, rétorquait le général, c'est tout naturel, il suffit d'avoir le secret. »« Le secret ? Eh oui, voulez-vous que je vous le révèle ?»« Mais c'est bien qu'à votre âge, on peut s'en passer, mais vous n'aurez pas toujours moins de 40 ans, et dame, un jour viendra, vous ne serez peut-être pas fâché d'employer un moyen qui m'a si bien réussi. » Il est d'ailleurs d'une simplicité surprenante. Tous les matins, en vous levant, le général Duvary du Brestard de la Volthe s'arrêta brusquement. Il venait d'apercevoir, près du buffet, Martine Avrillier, buvant à petite gorgée une coupe de champagne, que, d'une main un peu tremblante, Alban de Monthermé lui avait offerte. « Oh, oh » grommela-t-il. Des oreilles chastes. Il fait un temps magnifique. Allons finir notre cigare dans le jardin. » Et sans attendre l'avis de son interlocuteur, il saisit celui-ci par le bras et l'entraîna au dehors. Martine, qui avait à demi vidé sa coupe, demandait tout à coup à Monthermé « Dites-moi, capitaine, que pensez-vous du lieutenant Moret ?» Interdit par cette question si directe, à laquelle il était si loin de s'entendre, surtout de la part d'une jeune fille aussi prudente que Mademoiselle Avrillier, Alban ripostait « Mais mademoiselle, j'en pense beaucoup de bien. » D'un air un peu pincé, Martine reprenait « Il est entendu que c'est un héros, ou plutôt un pilote de tout premier ordre. Aussi n'est-ce pas sur ses qualités professionnelles que j'entends vous interroger ?» mais plutôt sur son caractère, son genre d'existence, ses habitudes. » Le cœur de l'aviateur se contracta. « Mes craintes étaient fondées, se dit-il. Morel a subjugué. Je dois dire adieu à toutes mes illusions. » Par un intense effort de volonté, il parvint à se dominer et à dissimuler le chagrin voisin du désespoir qui s'était emparé de lui, et ce fut d'un ton presque dégagé qu'il dit « Je vous avouerai, mademoiselle, que vous me prenez un peu au dépourvu. Le lieutenant Morel n'a jamais fait partie de mon escadrille. Je me suis rencontré quelquefois avec lui à des meetings d'aviation ou à des banquets corporatifs. Je n'ai donc eu que très rarement l'occasion de lui adresser la parole et encore moins de l'étudier. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il a une excellente réputation et que, tout en étant d'un caractère plutôt exubérant, il est extrêmement sérieux et considère comme un sacerdoce la carrière qu'il a choisie. Bien qu'il en coûtât fort de faire l'éloge de celui en qui il flairait un rival, Monthermé, trop loyal pour dissimuler sa pensée, dut-il lui-même souffrir cruellement de sa franchise, continuait. De famille riche, il aurait pu, comme tant d'autres, se laisser griser par ses premiers réels succès et succomber aux tentations qu'il n'a pas manqué de rencontrer sur sa route. Mais il n'en a rien été. Il a, paraît-il, eu toujours en horreur ce qu'on appelle vulgairement la noce. Jamais on ne l'a rencontré dans ses bars, dans ses boîtes de nuit, dans ses endroits louches, qui coûte si cher, moralement, physiquement et pécuniairement, à notre génération. En dehors de ses heures de présence au champ d'aviation, il consacre tout son temps à l'étude et à ses devoirs familiaux, si bien que certains de ses camarades, qui ne partagent ni sa façon de penser ni sa manière de vivre, l'ont surnommé le trappiste de l'air. Alors ça, c'est plutôt Ross, déclarait la jeune fille. « Mais c'est simplement stupide, » rectifia Alban. « Et je suis sûr que Moret aurait été le premier à en sourire. » Martine reprit sa coupe, but deux ou trois gorgées, puis demeura silencieuse. Monthermé, de plus en plus angoissé, n'osait l'interroger. Il se disait, oh, maintenant impossible d'en douter. Si elle ne l'aime pas encore, elle va certainement l'adorer. Martine dirigea vers le jeune aviateur un regard un peu voilé. On eût dit qu'instinctivement, elle cherchait à dissimuler l'intimité de sa pensée et qu'elle n'entendait donner à ce qu'elle allait dire qu'une portée tout à fait superficielle. Puis, d'un ton joué, un peu taquin, elle reprit. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai interrogé ainsi sur le lieutenant Moret. Mais non, mademoiselle, déclarait Alban. Jacques Morel est l'homme du jour. Il vient de conduire à la bataille et à la victoire un appareil qui est l'œuvre de votre père. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que vous vous intéressiez à lui. Oh, fit Martine en rougissant légèrement. Cet intérêt ne dépasse pas les limites d'une curiosité toute féminine. Monthermé crut remarquer que l'expression du visage de Mademoiselle Avrillé démentait cette affirmation qu'elle avait faite sur un ton de détachement plus artificiel que sincère. Et, secrètement déchiré, il se dit, mais pourquoi m'a-t-elle choisi, moi, pour me tenir un pareil langage? Aurait-elle deviné mon amour et voudrait-elle le dire au courageux à tout jamais? La fille de l'industriel reprenait. Je suis très contente de ce que vous m'avez appris au sujet du lieutenant Moret, car vous avez dissipé la pression plutôt fâcheuse qu'il m'avait causée. Comment cela? S'exclamait le capitaine. Martine, qui semblait glisser avec rapidité sur la pente des confidences, continuait. Tout à l'heure, en dansant, le lieutenant Moret n'a cessé de me faire un éloge dithyrambique de ma mère. Mais Madame Avrillé ne le mérite-t-elle pas? Observait le capitaine. Certes, appuyait la jeune fille avec force, mais il a tellement insisté que j'en étais offusqué. Vous m'étonnez, déclarait Alban. Le lieutenant Moret a la réputation d'être un parfait gentleman. Ah, ne croyez pas, déclarait Martine, qu'il ait prononcé une seule parole qui ne fût pas d'une correction parfaite. Mais cette insistance admirative m'a d'autant plus choqué qu'il ne m'a pas adressé un seul compliment. J'ai beau ne pas être coquette, mais cependant, je vous avouerai qu'il ne m'eût pas été désagréable que le lieutenant Moret me dit ou même me fît comprendre qu'il me trouvait jolie. Et déposant sa coupe sur le buffet avec un petit geste rageur, elle scanda. C'est évidemment un as, mais c'est un rude gaffeur. Elle est jalouse, se disait Alban. Je me trompais donc tout à l'heure lorsque je pensais qu'elle allait l'aimer. Elle l'aime déjà. L'orchestre s'était tu. Le buffet fut envahi par une cohue brillante. Parmi les arrivants, Martine aperçut sa mère. Elle parlait gaiement à Jacques Moret, qui lui répondait avec non moins d'entrain. Sans rien dire, elle quitta Monthermé, et comme si elle voulait éviter tout contact direct avec Jacques et Madame Avrillé, elle se faufila à travers la foule du côté opposé et gagna insensiblement la porte-fenêtre qui dominait sur le jardin. La nuit était admirable, une de ces nuits tièdes et douces de juin, exempte de toute menace orageuse et faite de l'épanouissement nocturne de la nature vivifiée, durant le jour par un soleil aux ardeurs bienfaisantes. En quelques pas, Martine se trouva dehors. Évitant avec soin le reflet des lumières intérieures qui nimbaient les alentours immédiats de la maison d'une clarté assez vive, elle gagna une allée en charmilles qui traversait cette véritable miniature de parc à la française. Deux lueurs perçaient les ténèbres environnantes, celle du cigare du général et du diplomate. Martine entendit la voix du général qui se rapprochait, puis des pas qui faisaient grincer le gravier. Elle se jeta dans une petite allée et se cacha derrière le feuillage. Comme les deux interlocuteurs passaient près d'elle, sans soupçonner sa présence, M. Duvary du Pressard de la Volte s'écria « Et voilà comment, mon cher, on peut, à mon âge, prendre encore assez d'assaut toutes mes forteresses. Mes compliments, général, fit une voix sonore bien timbrée et que Martine reconnut pour celle de son père. C'était en effet Florent Davrier, qui, désireux lui aussi de prendre un peu l'air, venait en sens inverse, accompagné du commandant Tristan, chef de l'escadrille, à laquelle appartient Jacques Moret. Le général, plein de son sujet, lançait à l'industriel « Mon cher, bien que vous ne soyez pas encore d'âge à mettre le mousqueton au rocher, il faudra qu'un jour vous aurez le temps, moi je l'ai toujours, je vous explique mon truc. Demandez à notre futur ambassadeur. N'est-ce pas, monsieur de Vitrac, que c'est une trouvaille ?»«
Oh, certainement, certainement, acquiesçait le jeune diplomate, qui ne paraissait nullement partager l'emballement du vieux militaire.
L'industriel, peu soucieux d'entamer avec ce dernier une conversation dont il lui eût été impossible de prévoir la fin, répliquait sur le ton cordial d'un homme de bonne compagnie. « C'est entendu, général, un de ces jours au cercle en deux tours de bridge. Vous m'expliquerez cela. »« Avec plaisir. » Le général s'éloigna, toujours rivé au bras de M. de Vitrac, dont l'impassibilité diplomatique commençait à se transformer en un agacement des plus compréhensibles. Alors, s'arrêtant à la hauteur de sa fille, qui, caché derrière l'épais rideau de feuilles de la charmille, était pour lui entièrement invisible, M. Avrier dit au commandant Trestin bon, « Ce que vous m'apprenez là m'ennuie beaucoup. J'en suis moi-même très affligé. Et vous croyez qu'il n'y a rien à faire ?»«
Rien. J'ai essayé tous les moyens, la persuasion, la menace. » Je me suis heurté à une force d'inertie contre laquelle s'usent les forces les plus puissantes. Ce pauvre Morel est englué, et, à mon avis, pas pour longtemps, mais pour toujours.
Et sa famille,
elle ignore ou fait semblant.
Cette femme est donc si séduisante?
Oui.
Une vicieuse, alors?
Non, mais cela vaudrait mieux.
C'est une divorcée.
Ah ah! Oh, une divorcée d'ailleurs des plus honorables. Ses parents, le père, un ancien baryton, miné en professeur de chant. Sa mère, une ancienne choriste du théâtre provincial. Elle l'avait contrainte à se marier à 16 ans. Un financier véreux, qui ne se contentait pas d'avoir dépassé largement la cinquantaine, mais était encore l'une des brutes les plus odieuses que l'on put imaginer. Et la petite, qui était ravissante, elle l'est encore d'ailleurs, supporta pendant 2 ans le plus atroce des calvaires. À 18 ans, elle demanda le divorce et l'obtint sans peine. À la grande fureur des siens, qui n'ayant jamais eu qu'une petite sac d'écu à la place du cœur, prirent parti contre leur fille et refusèrent de la recevoir. Elle ne se découragea pas. Faussièrement honnête, elle se mit à travailler. Elle connut des heures très pénibles, celles où une jeune femme, seule sur le pavé de Paris, se trouve dans l'alternative ou de rouler dans la boue ou de se jeter sous une rame de métro. Elle lutta. Elle fut victorieuse. Et au bout d'un an d'efforts surhumains, elle entrait comme vendeuse dans une célèbre galerie de tableaux où, grâce à son amabilité, à son intelligence et à sa distinction naturelle, elle ne tarda pas à se faire une jolie situation, qui n'a fait que grandir, après que son directeur se repose presque entièrement sur elle pour tout ce qui est vente et la consulte souvent au sujet de ses achats. Et elle n'a que 22 ans. Et comment le lieutenant Morel a-t-il connu? Bon, ne saurais-vous le dire. Voilà 2 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils s'adorent. Oh, j'ai la conviction qu'ils ne la quitteront jamais. Florent Tavrier, qui avait pour principe de tout simplifier, observait. Mais alors pourquoi ne se marie-t-il pas? Morel la désirerait vivement, répliquait le commandant. Mais c'est elle qui refuse. Pour quelle raison? Parce qu'elle sait que les parents de Jacques sont des gens à principe et que jamais ils n'admettront que Jacques épouse sa maîtresse. L'industriel appréciait. Oh, cette jeune femme a tout l'air d'avoir des sentiments très délicats. À moins que ce ne soit par calcul. Il prit un temps, puis il fit. Alors vous croyez que le lieutenant ne quittera pas son ami? Bon, on ne peut juger de rien, déclarait le commandant, mais cette liaison me paraît très sérieuse. Ils s'aiment tous deux d'un réel et profond amour. Elle, d'après ce que j'ai entendu dire, se sacrifierait peut-être pour lui, mais lui ne le voudra jamais. Je suis même sûr qu'il aimerait mieux rompre avec sa famille et renoncer à la fortune considérable qui doit lui échoir un jour, plutôt que de se séparer de celle qu'il considère comme la compagne définitive de sa vie. Florent Tavrier, son interlocuteur, s'éloignèrent vers la maison. Martine était demeurée figée sur place. Si aucune larme ne brillait dans ses yeux, une déception immense, une réelle douleur se lisait sur son visage. Un long soupir gonfla sa poitrine et ce fut tout. D'un pas alerte, elle regagna le buffet, où le général, se comprenant toujours au diplomate, continuait à lui corner aux oreilles les conseils les plus désintéressés, mais les plus superflus. Dans les salons, l'orchestre attaquait une nouvelle danse. Martine aperçut Monthermé, qui s'entretenait cordialement avec un de ses camarades, le capitaine Duvaloir, recordman de la hauteur. Avec une hardiesse que personne ne lui connaissait, la fille de l'industriel s'enfuit vers Alban, et sur un ton de familiarité qui ressemblait presque à un début de flirt, elle lui lança « Capitaine, faut-il que ce soit moi qui vous invite à danser une bleue ?» Palpitant d'émotion, Monthermé se précipita vers elle, les bras en arc. Martine s'en empara et elle se mit à chanter, l'air entraînant que rythmaient les instruments. L'aviateur sentit que peu à peu Martine, les paupières à demi closes et les lèvres entr'ouvertes en un étrange sourire, s'abandonnait à lui. Jamais il ne l'avait vue ainsi. Il ne savait plus que penser et que dire. Cet enfant, jusqu'alors si naturellement chaste, paraissait non pas s'offrir, mais se laisser aller silencieusement au charme d'une étreinte à la fois timide et passionnée. Il s'était donc trompé lorsque tout à l'heure il avait cru comprendre, à l'accent de sa voix, à l'expression de son visage, lorsqu'elle le questionnait sur Jacques Moret, qu'elle avait un sentiment pour ce dernier. Peut-être avait-elle voulu le taquiner, l'éprouver. En ce cas, elle l'aimait donc. Mais aussitôt, il se disait « Non, ce serait trop beau, c'est impossible. » Il redoutait tellement une rapide désillusion qu'il n'osait s'arrêter à son rêve. Il se contentait de la joie présente qu'il éprouvait à tenir dans ses bras cet être adorable et adoré. Une voix un peu ironique l'arracha à son extase. « Ah ça !» s'écriait Martine, « il faut que je vous gronde !»« Pourquoi donc ?» tressaillait Alban. « Parce que tout à l'heure, répliqua la jeune fille, vous m'avez donné des renseignements tout à fait incomplets sur le lieutenant Moret. » « Moi, mademoiselle ? Mais oui, capitaine. Oh, je suis certaine que vous n'avez agi que poussé par un sentiment de très louable camaraderie ou que vous avez craint de m'effaroucher en me révélant certains faits que vous ne pouviez pas ne point connaître. Mademoiselle, je vous assure, je ne saisis pas très bien. Capitaine, capitaine !» dansait gentiment la fille de l'industriel. Ne vous laissez pas égarer sur le chemin de l'inexactitude. C'est encore plus dangereux qu'une chute en avion, car on ne peut pas se rattraper. Mais je vous assure, mademoiselle, que je vous ai dit la vérité. Oui, rectifiait Martine, mais pas toute la vérité.
Cependant,
voyons, vous ne me ferez pas croire que vous ignoriez que le lieutenant Moret avait une amie, que celle-ci était une jeune personne fort belle, qu'elle était la sous-directrice d'une importante galerie de tableaux, qu'elle adorait son lieutenant et que son lieutenant l'adorait, et qu'il n'y avait que 99 chances sur 100 pour qu'il ne se quittât jamais.
Avec sa franchise habituelle, Monthermé répliquait « Oui, je savais tout cela, mais ce n'était pas à moi de vous le dire.
Pourquoi ?»«
Parce que ce ne sont pas des confidences à faire à une jeune fille de votre âge et de votre éducation. »«
Vous me prenez pour une petite dinde ?»«
Oh, mademoiselle, je vous considère comme la plus exquise et la plus respectable des jeunes filles que j'ai jamais rencontrées. »
« Je suis très sensible à la bonne opinion que vous avez de moi, » affirmait Martine avec une nuance d'émotion. « Mais je n'ai aucun mérite à être ainsi. J'ai un caractère, ou plutôt une nature, qui m'éloigne irrésistiblement de ce genre d'existence qu'ont adopté tant de mes amis. Je déteste fumer, j'ai horreur des cocktails. Le tennis ne m'ennuie pas, mais à la condition de ne pas en abuser. » Je n'ai jamais aspiré à être championne en quoi que ce soit. Je n'ai jamais voulu apprendre à conduire une auto, parce que je préfère savourer à mon gré les beaux paysages que je découvre au cours de mes randonnées, plutôt d'avoir l'œil fixé sur la route et le pied sur l'accélérateur. En musique, en peinture, en poésie, en littérature, j'aime ce que je comprends, ce qui me meut ou m'amuse et non pas ce qui m'étonne. En un mot, je ne suis pas snob pour un sou. Mais si j'ai conservé une âme, comment dirais-je bien, une âme
candide.
Non, non, disons plutôt naturelle. J'ai tout de même un peu progressé depuis ma première communion. Je ne suis plus une toute petite fille.
D'accord, admettait Monthermé, mais il y a cependant des sujets de conversation que l'on doit éviter. Brusquement, Martine s'écriait
« Et si, me contentant des renseignements que vous m'avez donnés sur Moret, je m'étais emballé ?»
Elle s'arrêta. En un geste impulsif, Alan Ban venait de resserrer son étreinte, qu'il relâcha d'ailleurs aussitôt. Martine poursuivait
« Oui, si je m'étais emballé, quelle responsabilité étiez-vous assuré dans le réel chagrin ?» Que m'eût ainsi causé la désillusion qui fatalement m'était réservée.
« Mademoiselle, balbutiait le capitaine, tout décontenancé, pardonnez-moi, jamais je n'aurais osé, je me serais permis, je n'aurais cru. »
« Rassurez-vous, reprenait la fille de l'industriel avec un sourire plein de douceur et de gentillesse. C'est une éventualité qui ne s'est pas produite et ne se produira pas. Car à vrai dire, loin de me sentir attiré vers le lieutenant Moret, je ne vous cacherai pas qu'il m'inspire plutôt une certaine antipathie. »
À ces mots, Monthermé sentit son cœur vibrer d'une allégresse, jusqu'alors pour lui inconnue. Non seulement Jacques Moret n'était pas pour lui un rival, et quel rival ! Le plus dangereux qu'il eût à redouter. Mais encore, il n'aspirait à celle dont il avait fait la souveraine de sa vie qu'un sentiment d'instinctive hostilité.
Pourtant, mademoiselle, qu'eût-il devoir dire,
Moret inspire toujours à ceux qui l'approchent cette sympathie que spontanément vous lui refusez.
C'est fort possible, reconnaissait la fille de l'industriel. Mais est-ce parce que je suis doué d'un esprit paradoxal et que je cède trop facilement à mes impressions premières pour employer un terme usité même dans les cercles les plus raffinés, moi, je ne puis pas encaisser le lieutenant Moret. Et mettant le comble à la joie de son danseur, elle ajouta: autant avec vous, capitaine, je me sens en sécurité. Je ne dis pas en avion, mais dans la vie, autant avec lui, je ne suis pas tranquille. Vous me flattez infiniment. Vous êtes un gentleman, et lui, c'est un jeune homme. Vous ne pouvez vous figurer à quel point j'en apprécie la différence. L'orchestre se tut. Comme si elle regrettait de s'être montrée aussi expansive, Martine quitta brusquement Monthermé et se dirigea vers un groupe de jeunes filles qui s'était formé aussitôt après les danses. Ces demoiselles, le verbe haut, échangeaient leurs impressions. Elles parlaient naturellement du héros de la fête. L'impression était unanime. Toutes le trouvaient épatant. Il ne s'agissait d'ailleurs aucunement de ses exploits, mais de ses avantages physiques. Martine Chemilly, la fille de l'administrateur des aciéries d'Auvergne, proclamait avec emphase: « Oh, il porte merveilleusement l'uniforme !»« Et il a les cheveux collés !» s'extasiait Nicole Montperron, dont le père possédait presque toutes les actions de la Compagnie Générale d'Électricité de l'Est. « Au moins, celui-là, il n'a pas l'air d'un mécano !» appuyait Raymond Vumine, unique et richissime héritière du célèbre fabricant de produits pharmaceutiques et spécialités diverses. « Tu as dansé avec lui ?» demandait Marthe à Nicole. « Oui, et toi ? Moi aussi. Mais nous toutes ? Oh, il est très souple, très élégant, très... Mais je ne le vois plus. Où diable est-il bien être passé ? Vous êtes peut-être au buffet. Non, j'en viens. Oh, c'est bizarre. Ah, mais qu'est-ce qui les aurait mis? Non, son navigateur de neveu est toujours là. Et comme les frères siamois, ils sont inséparables. Florent Avrier, la figure animée, joyeuse, accourait demandant: vous n'avez pas vu Moret? Non, père, répliquait Martine au nom de toutes. « Je le cherche partout, » déclarait l'industriel. « J'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Le ministre de la guerre vient de me téléphoner qu'il s'excusait de ne pas pouvoir faire même une courte apparition à notre bal, et il m'annonce en même temps que Moret est nommé capitaine. Ce banc, par exemple, me demande ce qu'il est devenu. Peut-être est-il allé fumer une cigarette. » L'industriel s'en vit à grands pas vers une porte-fenêtre qui donnait dans le jardin. Raymond de Vulaine, brune, capiteuse, coiffée à la garçonne, s'écriait d'une voix que l'absorption de trop nombreux martini n'avait pas précisément rendue très claire: il faut le dégoter pour fêter sa troisième ficelle! Et, sauf Martine, toutes allaient se précipiter sur les traces de Florent Avrier, lorsqu'un jeune homme, au visage glabre, au regard mauvais, à la bouche railleuse, et qui à 26 ans semblait moralement et physiquement aussi desséché qu'un parchemin, lança d'une voix mordante et volontairement canaille: pas besoin de vous en faire, les mômes! Votre as des as vous a laissé tomber!
Comment déjà? À 3 heures du matin? S'exclamaient les admiratrices du triomphateur. Alors, s'indigna Nicole Montberon, ils se couchent comme donc les poules?
Non pas comme les poules, martelait le troubleur de fête, mais avec une poule.
Et laquelle?
Interrogeait-on de toutes parts.
La sienne.
Mais comment? Il en a une à lui, quand il pouvait avoir toutes celles des autres.
Philippe Organiou, vague mondain, qui se vengeait du peu de succès qu'il avait auprès des femmes, en dépassant les limites de la mufleurie, répliquait avec un petit air méprisant aux lèvres:
il est-il, mes belles petites, de vous forger des chimères? Votre héros, votre dieu, n'est pas pour vous, il est collé.
Mais avec qui?
Une demoiselle de magasin.
Quelle horreur!
S'exclama avec ensemble le cœur des Snobinettes.
Quelle mufle!
S'écria Marthe Chemilly, résumant ainsi l'opinion de ses camarades. Mais tout à coup Martine, qui était restée impassible, poussa un léger cri et, pâlissant subitement, avant qu'on ait eu le temps de la retenir, elle glissait évanouie sur le tapis. Tandis qu'on se précipitait vers elle, Raymonde Vulaine, s'approchant du sieur Organou, qui ricanait, lui dit d'un ton méprisant
« Quel sale type vous faites !»
et lui montrant Martine, que son père, accouru, emportait dans ses bras, elle scanda.
« Vous avez pourtant bien vu qu'elle aussi a le béguin !»